Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
J'aimerais ouvrir un passage dans notre Bible, dans le Nouveau Testament. Et une première lecture que nous pouvons faire, participer ensemble, c'est dans Marc, chapitre 16, verset 15. Vous pourriez probablement, pour certains d'entre vous, la citer de mémoire. Vous la connaissez. Alors, je rappelle Marc, chapitre 16, verset 15. « Puis Jésus leur dit, naturellement à ses disciples, « Allez par tout le monde » et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Nous allons nous reporter au verset 20, dans le même paragraphe. Verset 20, « Et les disciples s'en allèrent prêcher partout, partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Et nous allons maintenant tourner quelques pages et prendre un texte de Jean, Évangile de Jean, chapitre 14, et nous allons donc lire le verset 29, où Jésus s'adresse, dans les temps de la fin de son ministère, à ses disciples. Et il est dit ceci, Jean 14, verset 29. « Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent. » Donc il y a des événements en perspective. Jésus les connaît, les disciples ne les connaissent pas encore. « Afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Il n'y a rien d'extraordinaire que cela, eh bien, finalement déclenche votre foi, que vous croyez. Il parle à des disciples, hein, donc il en connaissait déjà pas mal. Et il ajoute, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien de moi ou rien en moi, aucune ressemblance, c'est moi qui ajoute, hein, je paraphrase. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, « Levez-vous, partons d'ici. » J'attire votre attention sur cette petite expression. Il est dit ceci, « Afin que le monde sache. » Donc le monde ne connaît pas. Le monde ne peut pas s'imaginer les événements qui vont arriver. Il ne peut pas s'imaginer non plus ce que Jésus, eh bien, dans son plan de salut, son plan de grâce à préparer. Alors, c'est intéressant justement que nous nous arrêtions sur ce « afin que le monde sache ». C'est pour ça que nous avons lu précédemment, sous forme d'introduction, quand il est dit « mais allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Ils l'ont fait, les disciples, et ils ont vu miracles surnaturels, enfin, tout ce que Jésus avait fait. Eh bien, ils l'ont refait dans le temps et dans l'espace en grand nombre. Donc ça marche. Ça marche. J'aimerais commencer notre méditation, parce que c'est important pour chacun d'entre nous de le savoir dans notre temps, dans notre siècle. J'aimerais apporter une anecdote historique que vous connaissez tous. Il y a 80 ans, 84 ans on peut dire, l'appel du 18 juin 1940. Certains d'entre nous, nous n'étions pas nés. Ce sont peut-être beaucoup plus rares ceux qui ont entendu ou qui ont vécu à cette époque. L'appel du général de Gaulle. Et nous savons et nous connaissons le contexte dans lequel c'était quelque chose de catastrophique pour l'Europe, pour la France, pour le monde. Et nous voyons que C'est un message, nous disent les chroniqueurs du temps, et encore on nous le rappelle aujourd'hui. C'était un appel à la résistance, un appel à ne pas accepter la défaite, un appel, eh bien, à sauver notre patrie, tout simplement. Ça s'est passé à Londres, là, dans une radio qui s'appelait la BBC, qui existe toujours, et un obscur général, pas très gradé, mais général quand même, a eu l'autorisation de Churchill de parler aux Français. Ouais. La France parle aux Français. Il avait quand même du toupet et de l'audace hein, pour dire des choses comme ça, parce qu'il n'était pas toute la France non plus. Ça, c'est certain. Et nous voyons que c'est un message qui venait d'un inconnu, avec un message d'encouragement qui a été peu entendu. Sinon, peut-être un petit peu, là, sur les côtes de la Bretagne et tout ça, il y avait des... dans les îles de Sein, ou ce que j'ai entendu dire, hein. Mais la France n'avait pas entendu, hein. À Marseille, à Lille, etc., etc., alors que la France était envahie, de toute manière. Il a été peu entendu et encore moins compris. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'était Luberlu, là, qui nous parle, il est tout seul, il a personne, aucune armée avec lui, etc., et qui nous dit, finalement, de résister. Ouais, résister. Alors, je ferai aucune comparaison entre celui dont nous avons lu le texte et les paroles maintenant, parce que il y avait un homme et il y avait un Dieu qui s'est fait homme, les deux. Mais il y avait un message. Oui, un message. Et naturellement, le contenu de ce message, c'était pour la vie. C'était pour la liberté. Pour la libération. Pathétique, hein ? Quand la botte nazie était en train de marteler notre sol, eh bien, c'était ça, la liberté, la libération. Mais on était loin de la libération. Hein. Vous savez ce que ça coûtait, hein ? Le sang, le feu. Parce qu'il y avait un envahisseur. Ouais. Un envahisseur qui avait fait irruption dans une grande partie de l'Europe occidentale avant de commencer à s'attaquer à l'Orient, là-bas de l'autre côté en Russie, etc. Mais voilà. Et nous voyons qu'il y a des choses qui sont importantes pour nous aujourd'hui. Je ne veux pas faire un parallèle, mais il y a eu tellement d'histoires qui se sont finalement, eh bien... corroborer dans tout cela, on peut... Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le message de Jésus, hein, tout cela. Il s'intéresse à, finalement, prévenir ses disciples. Mais, vous avez remarqué, il y a le mot « monde », afin que le monde sache. C'est pas uniquement l'Église. Le régime de l'Église sera particulier, hein, je tiens à le dire, hein, quand Jésus va revenir. Mais le monde, les gens qui, quelque part... pensent tout connaître, mais qui ne connaissent pas, qui ne savent rien, et qui ne veulent surtout pas savoir, dans une certaine mesure. Un monde en guerre, un monde de feu et de sang, mais non pas seulement sur la terre, notre sol, mais dans un espace qui est l'éternité, si on parle finalement, eh bien, du temps. Est-ce qu'on peut ajouter temps et éternité ensemble? Et puis, finalement, dans une sphère qu'on ne voit pas. Le monde invisible et réalité spirituelle, tout simplement. Il y a un verset qui m'est venu ce matin, avant d'ouvrir, de préparer, enfin j'ai préparé ça depuis bien longtemps, quoi qu'il en soit. Vous allez vous souvenir de ça. Si personne ne sonne de la trompette, dans l'Ancien Testament, ça vous dit quelque chose. Parce que Israël en a eu des combats, hein. Il en a eu des guerres, il en a eu des accrochages. Il en a eu finalement des conflits avec les uns, les autres, les Philistins, les Moabites, etc. Et puis les grandes puissances de l'époque, hein, telles que, là, en effet, en Mésopotamie, les Chaldéens, et puis les uns et les autres, j'en oublie. Hein. Alors, si personne ne saute de la trompette, qui se préparera au combat? Voilà le texte. Voilà le texte. Alors, nous allons aller un peu plus loin, et vous allez l'entendre souvent. Afin que le monde sache. Vous êtes là ce matin, vous n'êtes pas là de la première heure, enfin je ne parle pas de la matinée, mais pour certains ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, peut-être nous avons certainement des plus anciens encore qui ont un un long parcours avec le Seigneur, parcours chrétien naturellement. Alors, nous sommes confrontés avec un mystérieux langage que j'aimerais expliciter maintenant. Jésus dit « Le prince de ce monde vient ». L'envahisseur est aux frontières. Il est à la porte. Il est là. Il est prêt. Et faut-il savoir que ceux qui sont à l'intérieur du pays sont prêts ? Sont-ils prêts ? Il dira ceci, « Il n'a rien de moi. » Ah oui, on n'a rien à voir. Moi, je n'ai rien à voir avec ce... Moi, je suis le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le prince de la lumière, de la vie. Enfin bon, on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Mais lui, c'est le prince de la mort. C'est lui qui est la cause, finalement, de tous les drames, de toutes les calamités qui existent sur la terre, qu'elles soient naturelles. Une montagne qui s'écroule, la guerre, à travers la maladie, à travers la mort. Ça, c'est l'aboutissement, naturellement. Il n'a rien de moi. Et il ajoutera ceci, « J'aime le Père. » Et l'amour fait faire des choses extraordinaires, jusqu'au sacrifice suprême. Ouais, aimer. Et Dieu part, finalement, eh bien, ce plan de salut pour l'humanité, le monde, pas seulement l'Église, parce que l'Église, elle est déjà sauvée. Mais le monde, eh bien, je donnais ma vie. Et ça court encore aujourd'hui, 2000 ans après. Hein. Je voudrais vous dire que Jésus nous le dira et le scellera par ce mot « Tout est accompli, ce n'est pas la peine d'ajouter quelque chose. » C'est fait. C'est fait. Alors, puisque j'aime le Père, je lui obéis et je me donne complètement et totalement. Cependant, ce mystère, dans le croisement entre l'Ancien et le Nouveau Testament, la loi d'un côté, la grâce de l'autre et la foi, ne peut plus rester caché. C'est pour ça que ce beau message, afin que le monde sache, est intervenu avec la venue de Jésus. Parce que, quelque part, la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité a été donnée par Jésus-Christ. Ça arrive à point nommé, hein, afin que le monde sache. Mais quel est donc ce secret étrange qui n'est pas étrange pour nous, révélé, que nous avons cru, que Jésus veut communiquer à tout prix avant qu'il ne disparaisse, qu'il ne meure sur la croix. Ah, il ne va pas rester longtemps dans la mort, hein. Vous connaissez la suite, naturellement. Mais néanmoins, il veut que ses disciples, là, vivant dans cet instant, eh bien, sachent quelque chose. Ils le sachent. Et puis, allez par tout le monde. Hein. Maintenant, ça y est, vous êtes libres. Hein. Vous ne me verrez plus, mais je suis avec vous. Avant que la mort de Jésus éteigne sa voix sur la croix. C'était un message de la plus grande importance, une révélation capitale. Et vraiment, j'ai eu à cœur de vous apporter ce message ce matin, afin que le monde sache. Oui, une révélation qui ouvrira les yeux, mais pas seulement les yeux. L'homme veut toujours voir pour croire, mais le cœur, et ça commence par le cœur. Et à partir du moment où le cœur commence à croire, les yeux s'ouvrent. C'est logique. Pour nous, c'est logique. Dans la confusion qui existe ici-bas, dans notre monde, sur cette terre, sur la réalité quotidienne du bien et du mal. Ah oui, c'est une affaire assez particulière. Hein. Et les hommes, depuis toujours, se posent la question de ce mystère. Le bien, le mal. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi, finalement, la lumière et les ténèbres? Alors, c'est tout un ensemble de choses. Et dans une petite parabole très touchante, Jésus nommera, finalement, le bien et le mal, de ce que nous appelons souvent, et qu'il a appelé d'ailleurs, le bon gré, le bon grain est livré, excusez-moi. Le bon grain est livré, et il dévoile à ce moment-là, non des idées abstraites, parce que c'est concret, le bon grain livré, c'est quelque chose, pas abstrait, mais l'existence, certes invisible, parce qu'elles sont spirituelles, mais c'est pas parce que nous les voyons pas, elles sont bien réelles, d'être sorties du cadre harmonieux, écoutez bien, d'être spirituelles, des créatures déchues de Dieu, qui sont sorties du cadre harmonieux de la création, parce qu'elles se sont révoltées et qui n'ont plus aucune ressemblance, ce qui explique ce que Jésus nous a dit, à ce qu'ils étaient à l'origine, ce qui fait dire à Jésus, le prince de ce monde vient et il n'a rien de moi. Pas de commune mesure, pas de ressemblance possible. Les ténèbres, la lumière, la vie, la mort. Ça s'adresse à tous les hommes, même l'Église. Mais néanmoins, nous avons une autre destination. Parce que la mort n'est pas un point final. Et pour le monde, ça reste un point d'interrogation. Mais pour nous, c'est une nouvelle destination qui nous attend. Il nous a revêtus d'un corps, il va disparaître. On prend soin de notre corps, c'est normal, c'est honorer Dieu. Mais il reste deux éléments ou un élément que l'on a mis en deux, c'est l'âme et l'esprit, une dimension spirituelle. N'ayez pas peur de la mort, mes frères et sœurs, vous êtes sauvés. Par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. N'ayez pas peur, même de tout ce qui arrivera. Alors pour comprendre, il nous faut remonter au premier jour de l'histoire de l'humanité. Eh oui, c'est pas né comme ça, c'est pas une étincelle qui s'est allumée un jour, et puis on se dit, tiens, ben, c'est le fait du hasard, c'est une coïncidence, c'est... Allons expliquer ? On ne sait pas expliquer. Voilà. Alors, nous voyons que, pour cela, Jésus est venu nous dire, un petit peu avant, longtemps avant, afin que le monde sache. Parce que vous savez, il y en a des dents, on l'a tourné en dérision, hein, avec tout ce qui peut comporter, de tout ce que les hommes se sont imaginés. Alors on cherche, et plus on cherche, moins on trouve. Ah bon, on a fait des découvertes, ça c'est sûr, hein. Et on a tout mélangé, finalement. La dimension spirituelle, dans la confusion morale des hommes, et on a inventé toutes sortes d'hypothèses, de suppositions. Et on a mis la religion bien au-dessus. Parce que bon, on se dit, c'est quand même quelque chose d'important. L'homme est religieux par nature. Hein. Même s'il adore finalement les démons et tout ça, c'est quand même une dévotion. Hein. C'est quand même avoir un adorateur. C'est quand même un sujet d'adoration, c'est ça. C'est toujours le vaudeur hein, qui est là, quoi qu'il en soit. Alors, on va voir un petit peu ça. Dans la parabole de l'ivraie, dans la stupeur causée par le désordre constaté dans le champ contaminé, puisque si vous faites référence à Matthieu chapitre 13, si ma mémoire est fidèle, eh bien, il y a un poison mortel, l'ivraie. Ça ressemble au blé. Ça ressemble à cette céréale. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ivraie a donné le mot ivresse, où on perd la raison, où on perd le bon sens, où on devient fou. C'est bien ce qu'est le monde. Hein. Jésus déclarera, c'est un ennemi qui a fait cela, c'est pas moi, c'est pas Dieu. Arrêtez, dernièrement j'ai entendu quelqu'un qui disait, ah ben oui, mais c'est Dieu qui est le responsable de tout. Mais moi, j'entends rarement que c'est le diable qui est le responsable de tout. D'ailleurs, le nom de Dieu, quand les gens sont en colère, je ne choque pas, hein, mais j'honore mon Dieu. Hein, je prends un marteau, je me tape à côté, là. Et les gens disent, béni soit le diable. Bon, enfin bon, voilà. Donc, dans le chapitre 3 de la Genèse, vous pouvez suivre avec moi, parce que je ne vais peut-être pas tout lire. Hein. Allons maintenant à la découverte. Avec cette sainte curiosité qui rétablit la vérité, pour qu'enfin, il faut d'abord avoir l'origine, il faut d'abord le préambule, il faut d'abord avoir l'introduction, parce que là, on a parlé dans l'Ancien Testament, où Jésus nous dit, il faut que le monde sache. Mais le monde, il ne veut pas savoir, premièrement, ou il ne sait pas, ou on l'a gardé dans l'ignorance, volontairement. Mais il faut aller voir au début comment ça s'est passé. Sans raconter des légendes, et des contes, et des fadaises, et toutes sortes de choses, des fake news, des deep news, parce qu'on en invente aujourd'hui, actuellement, hein, pour qualifier le mensonge. Alors, afin que nous sachions, je vous ai dit ces choses, afin que nous sachions, pour un aboutissement que nous croyons, le savoir est indispensable pour croire. Mais savoir quel savoir ? Savoir le mensonge ? Non, savoir la vérité. Et Dieu est Dieu. Dieu est Dieu de la vérité. Dieu est le Dieu de la vie. Afin que nous croyions, je vous ai dit donc ces choses, afin que ce que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Alors, il en est arrivé des choses. Depuis les temps immémoriaux, il en est arrivé des choses. Mais remarquez, à travers tous les temps, des hommes et des femmes se sont tournés vers Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, et ont cru, et sont sauvés. Ils nous ont précédés déjà de l'autre côté. Et il y a encore certainement notre tour, à un moment donné, qui va arriver. Afin que vous croyiez, c'est-à-dire reprendre le chemin inverse de l'humanité pervertie, perdue, pour autant que la chute a amené à l'incrédulité, à savoir la vérité, parce qu'il n'y a que la vérité qui conduit à la foi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, alors n'allez pas vous faire d'illusions que vous avez sauvé vous-même. Alors de quoi s'agit-il ? C'est un tableau à double vision, nous pouvons dire. Et lorsque nous ouvrons les premières paroles du livre de la Genèse au chapitre 3, il nous est parlé « le serpent ». Écoutez bien l'article. « Le serpent ». Ce n'est pas un serpent, mais c'est « le serpent ». Quel être ? Qu'est-ce que c'est que cette bête ? Qu'est-ce que c'est que cet animal ? C'est le serpent. Et là, l'article change tout. Hein. Il n'est pas indéfini, il est défini là. Bien identifié. Le serpent, il se comporte et s'exprime comme une personne humaine. Alors évidemment, là, c'est pas facile à comprendre. Vous avez déjà entendu parler un serpent ? Le serpent siffle, il persifle. Puis il a une langue, hein. Une langue longue, une longue langue. Il n'est pas comme nous, hein. Mais attention, hein. Il y a quelque chose qui finalement, eh bien, là, va le personnaliser. C'est tout simplement la silhouette d'un personnage, et ce personnage est avant tout esprit céleste, ouais, esprit spirituel, de haut niveau. Si vous avez un petit moment, c'est les vacances, lisez donc le chapitre 28 du livre d'Ézéchiel. Vous verrez qui est Lucifer, l'astre de lumière, qui se corrompt par orgueil, qui veut se faire le rival à Dieu. Parce que le serpent, le diable, c'est une créature. Comme nous-mêmes, bon, d'un autre genre naturellement. Mais lisez bien, c'est très intéressant hein, de faire une étude sur Ézéchiel chapitre 28. Sa mission, elle est bien simple, puisqu'il veut rivaliser avec Dieu, son créateur, il se dit, mais moi, je suis un astre de lumière, parce que c'était un ange, oui, un archange, un chérubin. Ouais, chérubin, il me semble, hein, parce que moi, ma mémoire, quelquefois, défaille. Sa mission, figurez-vous, d'une manière subtile, parce que rien ne se fait d'une manière grossière, ou quoi que, eh bien, c'est tout simplement de drainer et de rediriger la louange et l'adoration de la création de Dieu, tout simplement pour, par la tentation, d'attirer cette adoration à lui et non plus à Dieu, de capter, si vous voulez. De capter, créature que l'Éternel avait faite, non une personne divine, mais finalement nous avons dans ce serpent, eh bien une créature spirituelle. Voilà, il fallait bien le matérialiser pour qu'on comprenne ce que c'est. Vous aimez les serpents ? Ouais, alors ça c'est quelque chose, moi ça me fait horreur. C'est terrible ! Il y a la ruse, il y a la subtilité, il y a toutes sortes de choses. Heureusement, on n'en a pas beaucoup chez nous. Hein. Si vous allez dans le désert de l'Arizona, vous verrez, il y a des pancartes. Comme ça, danger, hein. Danger de mort. Et il y a un serpent dessus. Il y a des crotales, il y a toutes sortes de choses. Je vous souhaite une bonne nuit cette nuit. Waouh! Alors, bon, peu importe. Hein, c'est... Et il nous est dit, finalement, eh bien, il y a une conversation qui s'instaure. Mystérieuse conversation, un sujet en apparence anodin. Il est question tout simplement du jardin d'Éden, ce jardin idéal, ce jardin parfait que Dieu avait fait pour sa créature, l'homme et la femme. Et puis, il est bien souligné dans cette partie-là, eh bien, que la femme était innocente. Adam était innocent. Ils étaient sans péché. Alors, qu'est-ce que vous pouvez savoir du péché? Qu'est-ce que c'était que cette bête? Qu'est-ce que c'était que cette proposition qui était donnée? Et puis, il y a naturellement, alors je vais l'appeler maintenant, je vais lui donner un nom à Satan, au diable, je vais l'appeler le beau parleur. Et vous savez, il y a des gens qui sont comme ça, hein. Ils ont réponse à tout, ils connaissent tout, ils en mettent plein la vue aux gens, ils se vantent eux-mêmes naturellement, hein, parce que c'est eux les stars, hein, le beau parleur. Le beau parleur, et il va sortir une chose qui va vraiment être là la connexion de toute la chute de l'humanité. Dieu aurait-il réellement dit ? Il va mettre en doute. Le doute va maintenant être instillé dans l'esprit, dans le cœur, de cette nouvelle humanité. Enfin, cette humanité, elle est nouvelle, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Dieu a-t-il réellement dit ? Le doute est habilement suggéré et nous voyons qu'il y a déjà une goutte importante, c'est pas un flacon, mais une goutte importante de poison. Ouais, poison. Et on ne sait pas que c'est du poison parce que c'est pas marqué étiquette rouge. Une goutte de poison jetée dans la pensée, dans l'âme, dans le cœur des âmes. Et là, ça va dénaturer les choses. Ouais, d'une eau claire, elle va devenir boueuse. Ouais, elle va devenir du sang, quelque part. Et il y a naturellement, chez Adam et Ève, une déstabilisation, un déséquilibre. D'ailleurs, le déséquilibre, il est vu d'une manière tout à fait prononcée, puisque au verset 3 et 4, que je retrouve le passage, il est dit ceci à un moment donné, 3 et 4. Mais quant au fruit, dira le diable, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est-à-dire l'arbre de la vie, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent, c'est Dieu qui avait parlé, hein, excusez-moi, j'ai inversé. Dieu avait dit, vous n'en mourrez pas parce que vous allez mourir. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ouais. Et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien du mal. Voilà les choses, comment elles sont faites, comment elles sont dites, comment elles sont et vont être prises naturellement. La femme va savoir à ce moment-là. Elle a su. Elle connaît. Et elle sait aussi ce que Dieu a dit. Voilà. Il y a les deux. Terrible à la connaissance, parce qu'il y avait aussi cet arbre qui leur donnait le pouvoir de connaître le bien et le mal. Et il y avait l'arbre de la vie. Alors maintenant, tout est prêt, après cette récapitulation, pour que le beau parleur lance son attaque ciblée, la cible, son attaque de fond. L'interdiction de manger d'un arbre désigné comme mortel. Eh oui, elle est prévenue, elle va prévenir son mari. Et chapitre 4, verset 4, pardon, c'est la dénégation du diable. Mais non, mais tout ça c'est des histoires, mais votre Dieu c'est un baratineur. Bien sûr, il est en train de vous raconter des histoires. Il est en train de vous tromper. Moi le serpent, je vous dis la vérité, et vous pouvez me croire. Dieu avait finalement fait un avertissement. Mais voilà, les choses sont ainsi. En d'autres termes, il essaie de les persuader, l'homme et la femme, que Dieu raconte des balivernes. Oui, des tarabistouilles. Il y en a des mots comme ça, hein, pour les désigner. Quelle naïveté, quelle innocence. Mais il ne pouvait pas faire savoir autrement, hein, bien sûr. Il fallait qu'il fasse foi à Dieu, qu'il fasse confiance. Alors, Dieu, il accuse Dieu de vouloir maintenir sa création par la peur. Je tremble. Première peur de l'humanité. C'est quelque chose. Dans un état tout simplement d'obscurantisme, et ça va se refermer petit à petit au fil des temps, au fil des siècles, au fil des religions, au fil des philosophies, de toute cette pensée humaine, ça va prendre de l'importance. Pour faire penser que maintenant, au XXIe siècle, nous savons tout, nous connaissons tout, enfin, en partie nous voulons encore aller plus loin, et l'homme s'enorgueillit de plus en plus de la connaissance du bien et du mal. Mais alors qu'est-ce que nous constatons tous les jours? Le bien? C'est vrai, mais le mal aussi. Et encore faut-il que le bien ne soit pas un sujet d'orgueil, de dire, voilà, nous sommes des dieux maintenant, regardez le bien que nous sommes capables de faire. C'est perverti tout ça. L'ignorance pour mieux garder dans sa dépendance l'homme, d'où de persuader que la parole de Dieu est d'abord mensongère, c'est le diable, et ensuite présenter l'arbre défendu comme attrayant, tout simplement. Et peut-être pour nourrir un petit peu, il est dit ceci, « Vous serez comme des dieux, vos yeux s'ouvriront, et vous connaîtrez le bien et le mal, tout simplement. » Ça, c'est vraiment un coup de bluff, hein, si vous me permettez cette familiarité. Et il est magistral, ce coup. Premièrement, qu'est-ce que c'est de ne pas mourir ? Il n'y a pas beaucoup qui peuvent le dire, il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus. Voilà. Et puis, quelques exemples de miracles surnaturels dans l'Ancien Testament, dans le milieu. Mais les gens, les hommes qui sont morts, les gens qui sont ressuscités partout, ils sont morts après, hein. Même la guérison divine que nous affectionnons, où nous avons fait des expériences formidables, où Dieu nous a relevés, où Dieu nous a laissés vivre après avoir passé par la vallée de l'ombre de la mort, hein. Eh bien, on mourra quand même. Moi, j'ai vu des dizaines et des dizaines de frères et de sœurs qui ont fait des expériences extraordinaires avec la guérison divine. Et puis, à un moment donné, ils sont morts. Mais nous avons une promesse de résurrection bientôt. Quand Jésus va revenir et qu'il va enlever son Église. Alors, je ne vais pas rentrer dans les subtilités parce qu'il y a encore tellement de choses à dire. La deuxième raison, c'est quelle est cette vision si extraordinaire. La troisième chose, ce doit être formidable. La connaissance qui met la créature sur un pied d'égalité avec son créateur. Vous serez comme des dieux. Et qui donnerait à l'intelligence humaine la faculté de sonder même l'intelligence de Dieu. Et on se prend pour des petits dieux, hein. Mais quelquefois, parce que bon, et ça c'est là, ça fait partie de la création bienveillante de Dieu qu'il nous ait donné une intelligence. Et être chrétien, c'est pas être borné, c'est pas être là, enfermé dans une prison de légalisme en disant je veux pas savoir. Non, Dieu nous a donné la possibilité, finalement, eh bien, mais de connaître dans le bon sens, de connaître avec la volonté de Dieu, de connaître sa parole d'abord, de connaître sous la lumière du Saint-Esprit. Parce qu'autrement, ça devient tout simplement du fondamentalisme. Ça, c'est horrible. C'est encore un coup du diable, ça. L'appât est puissant et la tentation exaltante, car le beau parleur, c'est ce que la femme ne sait pas encore, mais qu'elle va savoir, que s'il réussit à capter la confiance de l'un et de l'autre, lui, Satan, se substituerait en même temps à Dieu, grâce à nos premiers parents, dans la direction, pour la direction du monde. Direction du monde. Vous savez que Jésus appelle le beau parleur, appelle le diable, le prince de la puissance de l'air. Le prince de ce monde, c'est Jésus qui le dit, hein, parce que le diable a voulu non seulement dominer la création par la mort et par tout le reste, mais aussi les hommes que Dieu a créés. Alors, le mensonge, il existe. Oui, il existe par le diable, dans Luc, il nous est dit, au chapitre 4, dans la tentation à Jésus. Si tu m'adores et te prosternes devant toi, je te donnerai tous ces royaumes de la terre, et c'est toi qui régneras, parce qu'elles m'ont été données. Non, elles ont été volées. Si le monde savait. Mais il est capable, finalement aussi, de faire miroiter dans les yeux des hommes, dans leur cœur, finalement, eh bien, une ascension humaine. dans les talents, avec les dons, avec toutes sortes de choses. Si tu te prosternais, ça c'est la séduction. C'est la proposition du diable à l'humanité sans Dieu. Et c'est vrai qu'il y a des choses formidables dans le monde. Il y a des talents, il y a des dons, il y a toutes sortes de choses. Si tu te prosternes et te prosternes et tu m'adores, tout simplement. Alors les dés sont joués, le beau parleur se tait, et que va faire la femme? Le message est donné, le poison est passé, tout simplement. Il était instillé, quelque part. Que va faire la femme? Et devant elle se présente un choix crucial. D'un côté, faire confiance à Dieu. Mais si c'était pas vrai, si c'est Dieu qui nous a menti, et s'il nous avait caché quelque chose, Dieu, bien sûr, il y a des mystères chez Dieu. Même dans la Bible, il y a des choses qui sont mystérieuses. Mais attendez donc d'être de l'autre côté dans la dimension pour savoir. C'est pas la peine d'aller plus vite que la musique. Alors, il y a comme une sorte de frustration chez Ève. Et cette frustration commence à produire les mauvais sentiments, des mauvaises pensées, elle s'insinue en elle. Et de l'autre côté, il y a le fruit interdit sous prétexte qu'il est mortel, alors normalement on n'y touche pas. Mais ne serait-il pas d'un autre côté aussi savoureux, finalement, que tous les autres fruits qui sont permis? Parce qu'il y avait un arbre dangereux et il y avait tout un jardin, multiple, varié en espèces et en qualité, et en beauté, enfin tout ce que vous voulez. Alors, elle a pris le mauvais, tout simplement. Alors, elle cède. Donc, elle accepte de voir les choses telles que le serpent les lui a montrées. C'est le verset 6, où il nous est dit, tout simplement, eh bien, cette parole, encore, je cite le passage, il est dit ceci. « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. » C'est ce qu'elle a cru, hein, en tous les cas. Hein. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, encore. C'est pas seulement de rivaliser avec Dieu, mais d'ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit, et en mangea, et lui en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et voilà, un beau couple. Ouais, terrible. Alors ça paraît désuet tout ça, ça paraît infantile, ça paraît légendaire, ça paraît un conte pour endormir. Mais la réalité, faut la voir au niveau spirituel. Et non pas avec notre intelligence humaine primaire. Hein. Ouais. Parce que ça fait toute la Bible, ça. Ça fait toute l'histoire de l'humanité, depuis les temps immémoriaux. Hein. Depuis toujours. Alors les yeux de l'un et d'autre s'ouvrirent. Ah oui, on n'avait pas encore inventé les lunettes. Hein. C'est venu. Mais on porte des lunettes parce qu'on ne verrait pas autrement, physiquement. Un monde apparaît et un autre disparaît, le monde de Dieu. Il va être voilé, il va être caché, c'est pas qu'il n'existe pas, mais il n'existe plus pour nous, le monde de Dieu. Il faut naître de nouveau, il faut se convertir, il faut accepter un sauveur, pas des religions, mais un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ et qui mord à notre place parce que nous ne sommes pas capables de nous sauver nous-mêmes. Cette fermeture, cette séparation a un nom terrible dans l'histoire des hommes, c'est le péché. N'ayons pas peur des mots. C'est le péché, c'est le mal. Dans la mentalité populaire, le premier péché a été l'accomplissement clandestin de l'acte conjugal. Alors, je parle de la vie sensuelle et sexuelle. En réalité, cette fallacieuse supposition est du mensonge satanique apprêté à toutes les plaisanteries, toutes les grivoiseries, et finalement, eh bien, à la dégradation de l'amour physique. Dieu nous a fait un corps. Il a mis l'homme et la femme, il faut en parler, parce que on a raconté tellement de choses. Mais moi, je crois que l'amour d'un couple, ça existe. Venu de Dieu, donné par Dieu, et dans le bonheur et l'amour et le partage. Et la famille aussi. Oui. Dégradation du couple. Le premier péché est moral. C'est la désobéissance. Cesser de faire confiance. Alors ça commence par Dieu. Faire confiance à Satan au point de l'écouter au lieu d'écouter Dieu. Désormais, ils croiront et suivront sans l'ombre d'un doute, puisque le poison a été instillé, Dieu aurait-il réellement dit? Par le grand menteur, le plus grand menteur, et Jésus dira dans Jean chapitre 44, vous avez pour père le diable. Il est le menteur et il est le meurtrier depuis le commencement, le menteur. La victoire provisoire de Satan s'étend à la création en inspirant, finalement, des suggestions de toutes les fausses religions du monde d'hier et d'aujourd'hui. Et des choses drôlement bizarres. Hein. Jésus le dira, par exemple, à son monde religieux de son temps, les pharisiens. Vous avez changé la parole de Dieu au profit de votre religion, de vos traditions, de vos rites, de vos dévotions qui n'ont plus rien à voir avec, finalement, eh bien, ce que Dieu a dit. Ce qui a fini par des sectes, hein, souvent. Vous savez, le serpent est souvent l'emblème des croyances d'initiationnistes et de sectes païennes. On en voit encore quand on extrait finalement, eh bien, en archéologie, ceci et cela, à travers des effigies, à travers toutes sortes de choses, le diable, le serpent et tout ça, dans toutes les civilisations antiques. Mais quand on voit aussi sur les casques des nazis avec la tête de mort, etc., ça revient au même, de toute façon. Et aujourd'hui encore. Alors, les croyances sectaires. À juste titre, Jésus appelle le diable, tout simplement, le prince de ce monde, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Puisqu'il entraîne à sa suite toutes les sociétés et civilisations par ses tromperies dans l'illusion du bonheur, en disant « avec moi, vous serez heureux ». Eh bien, on voit le résultat, hein. Quand on voit les déchirements, quand on voit toutes les séparations, quand on voit la haine, quand on voit le racisme, quand on voit toutes ces choses, on se dit « mais c'est pas possible ». Moi, je le dis souvent à mon épouse, je dis « mais on vit dans un monde d'enfer ». C'est terrible. Les enfants, le mensonge, les vols, les crimes, toutes les perversions qui existent. Illusion du bonheur. Les hommes sont en train, pathétiquement, en train de rechercher la porte pour retourner dans le paradis. Mais il est perdu, le paradis. Il sera dans le ciel, après. Et vraiment, bah, ce ne sera pas le même. Hein. Oui, ce ne sera pas le même. Parce que la cassure, elle est là. La belle entreprise de Dieu, au moment de l'Éden, la création, tourne à l'échec, dont la cause est la méfiance, qui ne cesse de dégrader ce nouveau monde, pourtant promis à l'amour. Voilà. Vous avez ce que nous avons lu tout à l'heure. Ouais. Je veux vous dire que le monde sache que j'aime mon Père, que j'aime Dieu. Eh bien, quand les gens se tourneront et proclameront le monde, proclamant qu'il aime Dieu, ça sera différent. Ça sera tout à fait différent. Ils le mettront en place, parce qu'on peut le dire, mais sans le faire, sans le vivre. À la place, l'homme et la femme font la triste découverte de la désharmonie, de la violence, de la contestation, on a des exemples, pour échapper à la réalité cauchemardesque. Eh oui, il y a le rêve et le cauchemar. Hein. Et au regard de Dieu, l'un et l'autre se cachent. Ils ont pris des feuilles de figuier. Ah, c'est pas du Chanel, des grands... comment pourrait-on dire les hommes qui font des vêtements splendides aujourd'hui. Hein. Ouais, ils se cachent. L'anecdote des feuilles de figuier, comme couverture, est le signe de la dissimulation. On cache. On ne veut pas que personne s'en aperçoive. On masque. On maquille. Ouais. Conscience de leur propre honte. Parce que s'ils étaient nus, et ils ont voulu cacher les choses. Fini la transparence originelle et la liberté. Parce que ça, c'était le don de Dieu que nous n'avons pas su conserver. Tout simplement. Il faut cacher à tout prix cette nudité qui trahit la peur, ou qui est trahie par notre peur, ou qui est dévoilée par notre peur, qui étreint les hommes dans la découverte qu'ils font d'un monde offert comme un paradis. Mais finalement, ça révèle toutes les caractéristiques de l'enfer. Vous savez, quand on voit la misère qu'il y a dans le monde. Alors, il y a les riches, il y a les grands, il y a les puissants, il y a les... voilà, tout ce que vous voulez, hein, ceux qui sont à la tête, ceux qui prétendent diriger le monde. Mais quand on voit la misère de gens, c'est terrible. La pauvreté des gens, le travail d'esclaves. Hier, j'ai eu l'occasion de regarder un document pour ceux qui, finalement, travaillent dans les mines, auprès des volcans, et ils retirent, vous savez, cette poudre bleue, jaune, là. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Pauvres gens. Ils meurent. Ils meurent les uns après les autres. C'est pas possible. Pour gagner quoi? 20 centimes le kilo? Comment ça s'appelle le soufre. Oh, si vous avez un problème de poumon, respirez bien. Vous allez voir, ça dégage. Ouais. Je me dis, mais c'est pas possible qu'il existe. Et des enfants de 12 ans, 15 ans qui vont déjà descendre dans la nuit parce qu'ils sont là pour nourrir une famille entière. Tous malades, de toute manière. Je me dis, mais c'est pas possible. Ça vient pas de Dieu, des choses comme ça. Petite précision. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle est la mère de tous les vivants. Elle s'appelle Ève à ce moment-là. L'homme, Ish, en hébreu, sa forme féminine, Isha. Je trouve que c'est joli, moi, pour une femme, hein, Isha. C'est beau. Et c'est son épouse. Après la chute, l'homme donne pour la deuxième fois un nouveau nom à sa compagne, Ève, qui veut dire mère. Mère de tous les vivants, figurez-vous. Mère de tous les vivants. Mais hélas, la mère de tous les vivants destinée à mourir. Destinée à mourir. Quand il est dit, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu dira, parce que tu vas retourner à la poussière, l'homme perdu, l'homme déchu, parce que tu retourneras à la poussière d'où tu as été tiré. Nous sommes poussière. Ça, c'est le corps. Physique, matière. Mais nous avons une personnalité, une identité qui s'appelle l'âme et qui est éternelle. Et nous avons par-dessus cela un esprit pour nous amener finalement eh bien, à Dieu, ou à l'autre côté. Conclusion. Quel espoir reste-t-il après le message que vous avez entendu? Vous êtes peut-être découragé. Vous êtes peut-être en disant, mais c'est pas possible, parce que je vous ai parlé beaucoup de livre de la Genèse de la chute. Mais maintenant, permettez-moi, d'une manière très concentrée, de vous parler du salut. Salut en Jésus-Christ. Le plan de Dieu qui a été caché, qui a été voilé, qui a été maquillé, qui a été dénaturé, qui a été complètement, eh bien là, nous pourrions dire défiguré. Alors, quel espoir reste-t-il pour l'humanité? Pour nous, mais pour l'humanité. Il en reste un seul. Et nous avons besoin de nous rappeler avant de dire. Souvenons-nous que Jésus a dit, mais je parle afin que le monde sache. Qu'il sache quoi? Le même qui a dit « Je suis le chemin pour aller au ciel. Je suis la vie pour vivre éternellement. Je suis la vérité. Le chemin, suivez-moi. La vérité, croyez-moi. Et la vie, vivez-moi. » Et il dira « La lumière qui éclaire dans les ténèbres. » Et il dira également la porte pour que vous puissiez rentrer dans le royaume de Dieu. Elle est étroite, mais elle est ouverte à tous. Elle est gratuite. Cet espoir est pour tous. Il est pour le monde. Nous, nous le savons. Mais tous ceux qui sont autour de nous, ils ne le savent pas. Ils ne veulent peut-être même pas le savoir. Ils se confient sur leur religion. Ils se confient dans toutes sortes de traditions, dans toutes sortes de dévotions. Je me dis, c'est terrible ça. À la croix, il y a eu la résurrection de Jésus. La mort n'a pas retenu. Sa parole a été proclamée. Et tout ce message de Jésus venant a fait savoir que la victoire de Christ est totale à la seule condition de croire. Ce n'est pas de faire. Ce n'est pas de fabriquer notre salut. Ce n'est pas de monter je ne sais quelle théorie, philosophie ou je ne sais quelle pensée et se donner une bonne conscience. Non, c'est simplement de croire que Jésus nous a parlé que Jésus nous a appelés et que nous avons simplement à répondre lorsqu'il nous dit « Je suis venu pour vous sauver. » Je suis venu pour vous sauver. Est-ce que c'est... Mais c'est simple. Les religions compliquées, il faut faire ceci, il faut mériter, il faut faire valoir, etc., etc. Mais il n'y a rien à faire puisque de toute façon Jésus l'a fait. C'est véritablement un déni. Hein. C'est véritablement même un outrage que nous faisons à Jésus lorsque nous croyons que ben, il faut en faire encore. Mais Jésus est mort complètement, totalement, parfaitement. Et il est ressuscité pour nous donner la vie. Moi, quelquefois, il y a des pasteurs qui devraient revoir un petit peu leur théologie. Hein. Parce que quand on mélange un peu les choses, quand les religions mélangent les choses, non, afin que le monde sache. Celui qui pêche est du diable, nous dit Jean. Mais le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable en parlant et en mourant. Oui, les œuvres de mort. Ce témoignage, afin que le monde sache, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie, elle est dans son Fils. Elle n'est pas dans un ceci, cela, etc., une religion, un homme élevé en dignité religieuse ou un prophète ou je ne sais quoi, je ne sais qui. Non, elle est en Jésus, en son Fils. « Je vous écris ces choses, va surenchérir Jean, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ. » Mes frères, c'est ça. Je n'allais pas m'étendre encore sur un exposé théologique de Jésus Sauveur. On l'a tous les dimanches, ça. Hein. Mais je voulais vous dire que finalement, notre tâche, elle est en nous maintenant. Hein. Le seul à avoir dit... Et à dire encore, et nous faisons partie de ceux qui disent encore, par le témoignage, la vérité. Alors allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, tout simplement, afin que le monde sache que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce, vraiment qu'il ouvre nos cœurs, et que nous ouvrions véritablement, eh bien, à l'appel de Dieu. D'une manière ou d'une autre, ça s'exprime tantôt d'une manière, et il faut le faire intelligemment, le témoignage, c'est pas de dire, eh bien voilà, de baratiner les gens, c'est pas de faire du prosélytisme, c'est de vivre ce que nous avons à vivre, selon ce que nous savons, et selon ce que nous avons à dire, et attendez donc que les gens viennent vous voir, parce qu'autrement ils vont vous rembarrer en disant, mais je vous ai rien demandé. Hein. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs. C'est par votre vie, par votre témoignage verbal, mais aussi par votre vie, ils vont se rendre compte que celui qui jette son pain à la surface des eaux le retrouvera de l'autre côté. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté infinie. Merci Seigneur parce que nous avons fait une lecture un petit peu en diagonale de notre Bible. Mais une chose qui est certaine, c'est que, en effet, nous voulons avoir à cœur que le monde sache. Et ça se fait de différentes manières, en fonction de nos cultures, en fonction de notre compréhension, en fonction de ce que nous avons surtout dans notre cœur, que tu as mis dans notre cœur, des bonnes œuvres préparées à l'avance pour que nous les pratiquions. C'est pas de faire n'importe quoi, c'est pas de dire n'importe quoi, c'est pas d'aller vers n'importe qui et n'importe quoi, mais c'est véritablement d'être là, de dire « Seigneur, tu m'as donné la vie, tu me laisses encore la vie aujourd'hui, permets que je sois le sel de la terre et la lumière du monde » pour que le monde sache.